Jeff Clack.
Jeff Clack, c'est un collectif d'une trentaine de personnes qui fabrique depuis 2012 une revue papier et un CD de création sonore qui suivent la comptine Trois petits chats. Marabout, bout de ficelle, selle de cheval, cheval de course, course à pied.
Jeff Clack, c'est également un site internet, jeffclack.org, qui mêle aussi bien des archives que du contenu inédit.
Et là, tout de suite, Jeff Clack vous propose une heure de traversée du dernier numéro, course à pied.
Troisième épisode.
C'est parti.
Édito.
Se sauver. Courir, à pied. Pour échapper à la guerre ou garder la forme. Se sauver pour se sauver. Jeff Clack est parti de la polysémie du verbe se sauver, faisant dialoguer la fuite et le soin de soi. Parce que s'arracher à pied, c'est engager les corps. Corps naufragés, agressés, traqués, pesés, comparés, empêchés, expulsés, exposés à la mort.
Face aux contraintes et aux injonctions, quelles échappatoires ? Jeff Clack s'est intéressé aux évasions, aux esquives, à la mort qui passe, à ça, mais qui passe. Se sauver. Verbe du premier groupe. A.
Emploi pronominal.
S'enfuir. Quitter rapidement l'endroit dans lequel on se trouve. Le fugitif a réussi à se sauver 24 fois. Déguerpir, cavaler, à toutes jambes, à perdre haleine, pris en chasse par les flics, enfermé entre quatre murs, encerclé par les injonctions managériales et les politiques de santé, assiégé par la ville, la déforestation, la guerre. S'enfuir, mais tout au long de sa fuite, chercher du sérum phi et un sens à sa vie.
B. Forme réfléchie.
S'épargner un grave danger, éviter sa perte, s'arracher à la mort, trouver un refuge dans sa fuite. Ce jour-là, il fuit les forces de l'ordre pour se sauver parce qu'il n'a pas sur lui sa carte d'identité. Sauver sa peau in extremis, sauver sa gueule, soigner ses blessures, s'éviter l'échec, la gêne, le désespoir, se soustraire à une vie misérable, se casser parce que ça pue le fric, aller voir ailleurs si on y est, s'en sortir bon an mal an, se défendre.
C'est familier.
S'échapper du récipient, déborder. Attention, le lait va se sauver. Alors, débordons.
Je ne connaissais pas précisément les distances des différentes courses que j'ai réalisées cette nuit-là. Une grande athlète, une vraiment qualifiée, aurait étudié le parcours plus attentivement. Mais dans une carrière, il peut arriver que certaines épreuves ne soient pas prévues. Je sais maintenant que la distance entre le lit et la porte d'entrée est plus grande, de 30 cm, que celle entre le lit et la porte de la salle de bain, qui ferme à clé. Détail important relevé par le commissaire Derval le lendemain. Pourquoi avez-vous attendu la dernière course pour vous diriger vers la salle de bain ? Le point de départ était fixe, le reste plutôt désordonné. Avec ces questions, le commissaire oublie que je courais avec un cerveau disjoncté, ce qui rendait mes prises de décision assez hasardeuses. Les scientifiques me soutiennent là-dessus. Ce furent les trois courses les plus importantes de toute ma carrière et je les ai courues à poil. Pourquoi pas ? Une fuite éco avec un matelas pour starting block. Au départ, l'adrénaline et le cortisol coulaient à flot, oxygénant mes muscles et affûtant mes neurones. Après, il a fait noir. Les yeux. C'est quoi ça, putain ? Le cerveau. Une situation de danger, je vais diffuser de l'adrénaline pour y faire face. Les yeux. Putain, mais c'est quoi ça ? On va crever là ? Le cerveau. Lorsqu'on croit mourir, le cerveau ne reconnaît pas la situation et ne sait plus comment stopper les hormones qui, à trop forte dose, peuvent tuer le cœur. Il ne lui reste qu'une solution. En pensant au cœur, le cerveau disjoncte. Cette nuit-là, il faisait noir, commissaire. Dans ma poitrine, le battement est préservé. À l'intérieur de ma tête, une sorte de boîte dans laquelle plus rien n'est identifié. Ce qui appartient à la victime est mélangé à ce qui appartient à l'agresseur. Lorsqu'on croit mourir, le jeu disjoncte. En réalité donc, cette nuit-là, je étais trois à courir. Un corps dominé par de possibles représailles, un cerveau disjoncté et au milieu des deux, quelque part, un instinct de survie. Chacun avait ses arguments pour courir l'épreuve différemment. Le corps, tout le monde voulait s'en débarrasser car c'est lui que la menace tentait de rattraper. Mais fuir sans corps, c'est kafkaïen. Je ne voulions pas mourir à poil. La distance que je devais parcourir pour lui échapper me semblait toujours plus grande que celle qu'il devait parcourir pour me rattraper. Sur le terrain de la peur, les distances sont variables. Sur le terrain de la peur, en une seconde, le 100 mètres haie peut devenir le 3000 steeple. Alors, quand le commissaire Derval sous-entend qu'un autre trajet aurait été plus judicieux, je me dis que c'est facile à dire, car gérer une fuite à trois qui ne sont pas d'accord en étant qu'une, et sur des distances variables, ce n'est pas chose aisée. Là-dessus encore, les scientifiques me soutiennent, ainsi que la gardienne de la paix, Suzanne Berthaud, avec qui j'ai fort sympathisé lors de la reconstitution de l'épreuve. Elle n'avait pas d'avis sur un possible meilleur parcours. L'affaire n'est pas terminée. En attendant, tous les matins, je refais le même trajet, de mon lit à la salle de bain. Ça prend du temps. Toujours à poil. Ça prend du temps. Laissant volontairement mon cul et mes seins se balancer et rebondir, satisfait d'une certaine vulgarité retrouvée, une qui m'appartient, assumée du cœur et du cerveau et libérée de ses mains.
Le premier truc essentiel, c'est le ressenti. Elle me dit quoi ? Elle me dit pas mal de choses. Elle te donne déjà... Qu'est-ce qu'elle te donne après ? Elle te donne plein de choses. Je peux pas te dire exactement, c'est... Elle est là aussi pour te rassurer et surtout conforter l'idée que, bon voilà, que ça, mais si tu l'as bien fait, tu l'as bien fait, c'est bon, point barre. On n'en parle plus, tu l'as bien fait, quoi. Voilà. 15. Voilà, c'est un guide, c'est une boussole, c'est tout, quoi. 10. Voilà. 5, 4, 3, 2, 1. Activity started. Au départ, j'ai démarré avec une paire de chaussures, voilà, les des plus classiques que j'ai achetées dans un magasin lambda, et puis voilà quoi. Donc bon, je ne voyais aucun intérêt à galoper, mais vraiment aucun. Et au début, je me suis forcé, je dirais, allez, les deux premiers mois, ça a été vraiment un gros effort. Je me suis lancé, puis la première fois, j'ai fait que à peine 3 km en je dirais 20 minutes. Puis après, au bout d'un mois, tu commences à perdre des 2 kilos. 3 semaines après, tu as 1 kilo de moins. Tu continues à galoper, tu as moins de difficultés. Et puis bon, ton corps accepte, entre guillemets, l'effort. Et puis ça devient, bon après ça devient un plaisir quoi, hein, bon voilà, tout simplement. Aujourd'hui, voilà, j'arrive à faire aisément 18-19 km quoi. Si je ne fais pas minimum 2 sorties par semaine, mon corps... Il me fait comprendre qu'il éprouve un manque. Voilà. Après, tu commences à être à l'aise, tu commences à galoper un peu vite, tu croises des gens, tu doubles des gens aussi. Il y a un truc qui se passe, quoi. T'en parles avec des gens qui sont déjà dans ce sport, et puis on te dit, bah, mais tu devrais te tester, t'équiper peut-être avec du matériel, voir un peu, te jauger, ça te permettrait de voir un peu ton allure moyenne ou ta vitesse moyenne. T'es pris dans un truc. Voilà, t'es pris dans un truc qui te... Voilà. C'est comme on dit, le sucre appelle le sucre, quoi. C'est ça. Activity resumed. Distance 1 km. Duration 1 minute 16 seconds. Pace 1 minute 16 seconds per. Pendant la course, elle te donne aussi le nombre de calories que tu as brûlé. Après, à l'issue de la course, elle te fait un bilan de ta course et elle te donne le temps de récupération que tu dois respecter. Quand tu es dans le rouge, elle te le mentionne. La fréquence cardiaque,
Donc voilà, après, c'est hyper complet, quoi. On va pas voir un spécialiste toutes les semaines pour nous dire les chaussures sont mortes. Mais ça, nous, on le surveille par l'application, quoi. Et tout le monde fait ça. Tu démarres par acheter matériel plus ou moins onéreux de base, tout ça. Tranquille, t'y prends goût, tu te dis bon, ok, c'est super, mais ça ne me suffit pas. Et puis après, tu passes à l'étape supplémentaire. Mais après, c'est ça, c'était au départ, tu vois que t'es en progrès, donc tu te dis mais comment je peux faire aujourd'hui pour me. Voilà, j'ai eu une envie de m'évaluer, quoi, et dire bon, voir ce que je valais, quoi. Et puis c'est pour ça qu'après, tu investis. Aujourd'hui, personne ne court avec un chrono à la main, voilà, c'est. Fais pas ça. Elle est là pour conforter l'idée de ce que je fais, tu vois. Voilà, hier soir, je rentre, je fais mes étirements, hop, je me connecte avec mon portable Bluetooth. Voilà, avant d'aller même me doucher, je regarde. Après, voilà, c'est que. Je veux dire, c'est un tout, ça fait boule de neige. Et puis, c'est aussi, ça permet de faire aussi un comptage des kilomètres que tu avales dans l'année. Enfin, puis il y a des stats quoi, qui font plaisir. Quoi. Bon, elle est là pour te guider parce que sinon, tu n'achètes pas ce genre de matériel. Mais elle te montre les chiffres, quoi, ça parle, ils parlent d'eux-mêmes. Hein. Donc, tout ça, c'est assez précis. Mais c'est ce qu'on recherche naturellement. Quoi. C'est. Être évalué par quelque chose de scientifique, ben toutes les données sont hyper précises. Quoi. Alors qu'avant, c'était qu'une sensation. Et j'avais la sensation d'aller plus vite, d'aller de plus en plus vite. Mais je n'avais rien qui me permettait de le vérifier. Activity completed. Activity summary. Total distance. 0 kilometers. Total duration. 13. Je suis habitué maintenant à ça, c'est un besoin et j'aime bien savoir combien je crame de calories par jour et voilà, c'est comme ça, c'est un besoin. Après je pourrais courir sans, je peux. Ça ne me changerait pas grand chose parce qu'aujourd'hui, je connais mon allure. Genre tu pars, tu as 2 km de chauffe, ça je les connais. Qu'on est approximativement mes temps. Après, je sais que je peux galoper sur les 5 autres kilomètres, une allure assez soutenue, et le dernier kilomètre. Mais c'est devenu tellement une habitude qu'aujourd'hui, oui, je pourrais éventuellement oublier la montre, mais je l'oublie pas. Voilà, c'est. J'oublie pas.
Février 1939. Les réfugiés qui parviennent à passer les cols des Pyrénées et arrivent épuisés à la frontière française viennent de toute l'Espagne. Une grande partie de celles et ceux qui arrivent au village de Miramont de Comminges, Haute-Garonne, sont partis d'Aragon, de la région de Huesca ou de Catalogne. De l'autre côté du Val d'Aran, à moins de 300 km. 2017. Après des mois de recherches infructueuses dans les archives du village, en ouvrant un placard morne, on découvre une chemise jaune, portant une simple mention manuscrite au crayon rouge « Réfugié espagnol ». Ces documents concernent le camp de regroupement de Miramont, où, de février 1939 à mai 1940, plus de 200 personnes sont accueillies. Des femmes, des enfants et des personnes âgées. Les guillemets autour du verbe « accueillir », on les voit dessinés sur le sourire gêné de celles et ceux qui racontent aujourd'hui. Récupérer ou entasser conviendrait sans doute mieux. Mais la frontière a fini par s'ouvrir. Les réfugiés ont pu rester, faire leur vie ici, et remercient malgré tout la France. Fuir le front. Attention, elle est vieille, hein, rigole Joséphine Puentedura. En trottinant vers sa machine à coudre. Elle la met en route, attrape une étoffe. C'était de ce type-là qu'étaient faites nos couvertures. Repose soigneusement la manta. Joséphine est partie d'Espagne le 12 octobre 1936. 4 ans de marche, sinueuse, hésitante, de nuit le plus souvent, et le plus rapidement possible, mais à pied, à pied. Elle le martèle de sa voix fine et précise dès qu'elle revient sur le parcours qui les a poussés, elle et sa famille, mère, grand-mère, tante, cousine, frère, à fuir Franco. Quand le front avançait, nous, on reculait. C'est une phrase maintes et maintes fois entendue, avec la même musique dans les différents timbres de voix, les mêmes mots dans le même ordre. Comme une formule de reconnaissance de bouche en bouche. Si tu le dis aussi de cette façon, ton parcours est un peu le mien, ta fuite est un peu la mienne. Franco dans le dos. La retirada, littéralement la retraite, désigne l'exode des républicains espagnols et la traversée des Pyrénées jusqu'à la frontière française. Un départ précipité en février-mars 1939, après l'entrée des franquistes en Catalogne. 500 000 personnes ont franchi les cols enneigés, au Pertus, au Boulou, à Arès. Pour beaucoup, la déroute a commencé en 1936, dès les toutes premières semaines du conflit. Quand le général Franco part avec ses troupes du Maroc et déclenche, le 17 juillet, un coup d'État contre la Seconde République espagnole, l'attaque est massive et brutale. Au fur et à mesure de la progression des phalangistes et des monarchistes, les militants et militantes et sympathisants et sympathisantes de la République sont emprisonnés. Des dizaines de milliers de personnes sont exécutées sommairement. La résistance populaire freine le coup d'État dans quelques grandes villes. Barcelone, Madrid, Valence, Bilbao. Et l'Espagne est coupée en deux, dans une guerre civile longue de 3 années. Barcelone tombe le 26 janvier 1930. La guerre est finie et 36 ans de régime franquiste. Pourquoi être parti? Pourquoi si vite? La question étonne presque. Et l'évidence de la réponse sort comme un souffle indigné. Mais tout simplement parce que mon père n'était pas franquiste. Si on était resté au village, c'est sûr qu'on aurait pu tous et toutes mourir, lance Joséphine Rubiela, qui habite aujourd'hui à Montauban de Luchon, à une centaine de kilomètres de son Barbastro natal. Les chemins empruntés n'offraient aucun répit. Les bombardements permanents ont culminé sur la route des Pyrénées, après la conquête de la Catalogne par les franquistes. Émile Gasca, lui, a mis des décennies à vaincre sa peur des avions. On se jetait à terre, dans le fossé. Ma mère se couchait sur nous. J'étais mort de peur. Ça n'arrêtait pas, des avions sur nos têtes, tout le temps. On nous faisait mettre un petit bâton entre les dents, pour qu'avec la déflagration, on ne se morde pas la langue. Des bombes contre des civils et contre des idéaux mis en pratique pendant l'expérience des collectivisations, notamment en Catalogne ou en Aragon. Les collectivisations des moyens de production et de distribution concernent tous les secteurs, de l'industrie métallurgique à celle du cinéma, et vont très loin dans l'exploitation commune des terres agricoles. Le partage de la terre était la pierre angulaire du nouveau régime libertaire qui devait être établi au lendemain de la Révolution. Régime de fraternité humaine s'efforçant de résoudre les problèmes économiques sans que l'État ou la politique soient nécessaires. Conformément à la fameuse formule de chacun selon ses forces, à chacun selon ses besoins. Depuis 1931 et la Première République, le taux d'analphabétisation en Espagne a bondi via un principe d'école moderne développé dès le début du siècle, inspirant parmi tant d'autres le célèbre pédagogue Célestin Freinet, qui a fait plusieurs séjours en Espagne. La connaissance et les livres n'étaient pas que des idées bourgeoises. Les Espagnols lisaient beaucoup. Plein de gens étaient devenus, en peu de temps, éduqués et politisés. L'anarchisme, l'adhésion à la CNT ou le simple fait de militer étaient des choses communes, s'enthousiasme Joséphine Puentedura. les idéaux révolutionnaires et un attachement viscéral à la culture et à la connaissance ont été transmis malgré l'exil, souvent au-delà de la génération suivante. Partir vite, marcher lentement. François Puentedura, dit Paco, est parti en 1937 de son village natal de Solobreña, entre Grenade et Malaga. Il a marché durant près de 3 ans avant d'atteindre la frontière française. J'avais 6 ans. Ma mère portait des sacs et mon père nous attendait dans un champ de canne à sucre. La Guardia Civile rôdait. Moi, j'étais content comme tout. Je croyais qu'on partait en vacances. Je n'ai même pas embrassé mes grands-parents qui pleuraient. Quand j'ai compris qu'il fallait qu'on avance sans cesse, ce fut terrible. Nous suivions la côte vers Almeria. Les bateaux nous canonnaient, les avions nous tiraient. Il n'y avait rien pour nous protéger. Pas un arbre, pas un abri, juste des arbustes. Prendre peu. Maria Bernat, 91 ans aujourd'hui, habite à Bagnères-de-Luchon, à quelques kilomètres de la frontière espagnole. J'avais 9 ans quand la guerre a éclaté. J'étais une petite fille très gâtée, mes parents faisaient tout pour moi, et d'un coup, hop, plus rien. Ma poupée, je veux ma poupée, je me revois répéter ça à ma mère. Je ne me rendais compte de rien, j'étais bloquée sur cette idée que j'avais laissé ma poupée. C'était ridicule, mais pour moi, ça représentait tout. La ligne serpentine. Pendant ces longs mois, la course en avant des Espagnols n'est qu'errance et dérive. Se cacher, ne pas savoir où passer la nuit, manger très peu, et l'immense fatigue, physique, morale, nerveuse. Parti à l'âge de 2 ans, à la fin de l'année 1936, Dolores Gasca complète le récit de Joséphine Puentedura par un autre, presque identique. Mon frère aîné raconte que pour manger, on allait voler des navets ou des choses dans les champs comme on pouvait. On avait un peu de farine, un peu de riz, quelques vêtements, du linge. Les petits et les petites montaient sur la charrette et les grands et grandes marchaient à pied. Le bourricot nous suivait. Jules Estaran, fils de républicain exilé, est né en France en 1942. Politiquement, il ne faut pas oublier que les républicains espagnols étaient très imprégnés des devises et des grandes idées de la République française. Le mot « liberté » était très important. Quand, il y a 2 ans, on a inauguré la plaque commémorative de Luchon, les gens tenaient beaucoup à ce que le mot « liberté » soit écrit avec un L majuscule. Comme il disait en 1939, on était enfin arrivé dans le pays de la liberté. Derniers obstacles. Après 3 années de marche, Joséphine Puentedura a 7 ans quand elle arrive au pied des Pyrénées. Obstacle de taille avant la frontière. Elle a pris 2 pointures pendant l'interminable périple et chausse maintenant du 28. On retrouvera dans les archives des traces de dons datant de mai 1939, notamment de chaussures pour enfants. On est en mars, il neige là-haut. Il et elle n'ont rien pour se protéger du froid. Joséphine Rubiela se rappelle avoir perdu ses parents toute une nuit dans la montagne et de voir sa survie à la bonté d'un inconnu qu'il a recouverte d'une veste. Beaucoup de gens ont péri à cause des conditions terribles de cette traversée. Pendant le périple, il a fallu s'alléger, céder ses bagages à la route. Et le peu qu'on a pu garder, l'indispensable, il a fallu l'abandonner, contrainte et forcée, en arrivant à la frontière, au Pertus ou au Boulou. Ici aussi, de nombreux documents témoignent de la recherche de ces objets perdus. Si Dolores Gasca ne se rappelle plus du départ ni de la marche, le passage de la frontière est resté gravé. Il a fallu tout jeter, les valises, tout. On ne vous laissait rien passer. Tout le monde jetait tout. le peu de nourriture qui pouvait rester, les derniers habits. Même le bourricot, on a dû lui dire adieu et l'attacher à un arbre pour qu'il ne nous suive plus. Sur cette frontière, restée fermée de nombreuses semaines et qui s'ouvre enfin en février 1939, civils et militaires en fuite sont mélangés dans une cohue sans nom. Bombardés jusqu'aux ultimes moments par l'aviation franquiste, qui continue d'expérimenter le matériel fourni par Hitler et Mussolini. Pour les républicains et républicaines exténués, après l'école des Pyrénées, la frontière tant espérée s'avère d'une hostilité incompréhensible. L'accueil des autorités françaises, débordées par la situation, poussées par une logique sécuritaire et la crainte du rouge, est aussi inattendu que brutal. Le gouvernement Daladier, élu en avril 1938, a considérablement durci la politique d'accueil des étrangers et des étrangères. On parle d'indésirables, et l'exode de 1939 est géré avec plus de fermeté que d'hospitalité. À la frontière, ils nous ont séparés. Les hommes envoyés dans les camps, prisonniers d'un côté, les femmes et les enfants, dans des camps de regroupement de l'autre. Au refuge de Miramont, nous étions 200 femmes, enfants et personnes âgées. Enfermées. Je revois le grand portail. Je me souviens de ce gardien, terrible, qui retenait le courrier et nous empêchait de sortir. On l'appelait Oui-Oui, parce qu'il disait toujours non. Et puis la guerre a éclaté en France. Ça aussi, ça a été vraiment dur. J'avais 4 ans quand la guerre civile a commencé en Espagne. Et 14 ans à la fin de la guerre en France. On a été scolarisés en 1940, nos parents ont travaillé. Ils ont souvent peu appris le français. Nous, on a été à l'école, on a appris la langue très vite. Et notre vie s'est faite ici. Ça fait 75 ans qu'on est là. Transmission de silence. À force d'entendre que les souvenirs restent fragiles et que, depuis l'enfance, les parents ne parlent pas, on comprend que cette histoire n'a pas été tant racontée que ça. Aujourd'hui, l'ancien refuge de Miramont récolte ce qu'il reste de ses silences. Joséphine traverse le jardin, là où la chaîne des Pyrénées se devine par temps clair, et nous retient à son portail. Ces mots s'entrechoquent d'indignation. Comment est-il possible qu'aujourd'hui encore, on érige tant de murs, qu'on ferme les frontières, qu'on bafoue tous les traités internationaux, qu'on criminalise celles et ceux qui aident? Je ne parle pas de l'Amérique avec la frontière du Mexique. Non, en Europe et à Calais, vous avez vu? Des murs pour les empêcher d'aller en Angleterre. Je ne sais pas combien de kilomètres de murs ils ont fait contre ces exilés d'aujourd'hui. Mais ces pauvres gens, ils fuient la guerre comme nous. S'ils restent dans leur pays, ils vont se faire tuer. Calais, c'est comme Argelès et les autres camps de la plage en 1939. Le racisme, le même. Quand je les vois aujourd'hui sur les routes, moi, je me vois encore.
Si los curas y frailes supieran, la paliza que van a llevar, subirían al coro cantando libertad, libertad, libertad.
Somos los tristes refugiados. Chanson du camp d'Argelès-sur-Mer.
Fermez les portes et s'en aller.
C'est nous et nous et après, ce qui va rester après. Moi, ça me préoccupe beaucoup, cette histoire de comment on va faire pour que cette histoire ne se perde pas, parce que
le 6 février 39.
Somos los tristes refugiados que de España llegamos después de tanto andar. Hemos pasado la frontera a pie por carretera con nuestra agua. Mantas, macutos y maletas, tres latas de conserva y algo de humo.
Que el mundo va a cambiar, nos dicen.
Es lo que hemos podido salvar. Después de tanto luchar contra el fascismo atrás.
Los del otro lado nos aplastarán y así se quedarán, nos dicen, con las manos libres para hacer su plan.
Y pensar que hace tres años España entera era una nación feliz, libre y obrera. Abundaba la comida, no digamos la bebida, el tabaco y el papel.
Habrá que echar la cuenta de tantas injusticias, la cuenta de la sangre y de la libertad. La cuenta de la sangre y de la libertad.
Hay que soñar y nosotros soñamos, pero nos tomamos muy en serio nuestros sueños.
Oui, il nous faut aborder maintenant le chapitre des manifestations.
Oui, puis on chantait des chansons révolutionnaires, on chantait... Quoi que ce soit, on chantait les barricadas.
Les barricadas.
On chantait Hijos del Pueblo.
Hijos del Pueblo, voilà.
Et puis qu'est-ce qu'on chantait d'autre?
Nous sommes les tristes réfugiés qui arrivons d'Espagne. Après avoir marché, nous avons passé la frontière à pied par la route. Avec tout notre trousseau, couverture, besace et valise, trois boîtes de conserve, un peu de notre humour. Voilà ce que nous avons pu sauver. Après avoir tant lutté contre le fascisme là-bas et au camp d'Argelès, on nous enferme sans manger.
En mi alma y te tuerces en lentas espirales de humo.
Estamos aquí porque sabemos que el momento es ahora.
C'est bon, mais voilà.
Voilà comment on est venu ici, oui, par un mont et...
Mais tout ça, ça nous a pris une année.
En mi tierra desierta eres la última rosa.
Y por eso estamos aquí, no para protestar.
Ah, silenciosa. Cierra tus ojos profundos.
Sur les femmes, l'appel aux femmes.
Ouais.
Sur l'air de Ramona, tu te rappelles pas?
Et je me rappelle pas, non.
Je vous dis, je me rappelle pas le nom des villages. Je sais qu'on est passé à Reus, qu'on est passé à
Toledo,
à Villa, à Figueras,
Valentino, c'est vrai.
Convierta en un calvario de por vida, un país donde no se cobren sueldos de miseria, un país donde existan políticas que vacunen contra la exclusión y la pobreza.
Llave de Villar, llave de Fama, llave de Fama, llave de Fama, llave de Fama, llave de
Fama, la libertad, la igualdad triunfarán.
La población, pero las autoridades sí, quiso este completamente de bordé. Cet arrivage massif des gens désemparés, terrorisés.
Soñamos.
Estrella de experiencia. Sí, espoir de un mío.
Crispos brazos de flor y regazo de rosa.
Étant donné l'ampleur prise par l'exode des réfugiés espagnols en France, M. Albert Sarraut, ministre de l'Intérieur, et M. Marc Rucard, ministre de la Santé publique, se rendent eux-mêmes en voyage d'inspection à la frontière pyrénéenne. Les deux ministres visitent longuement les centres de contrôle et d'admission, ainsi que les camps d'hébergement qui ont été aménagés en différents points de la frontière. Ce nouvel afflux de réfugiés...
Nadie nos vio esta tarde con las manos unidas. Mientras la noche azul caía sobre el mundo.
Et ces images donnent une idée exacte de la France accueillante, humaine et pitoyable au malheur.
En los cerros lejanos.
fundador del Partido Comunista, cerrote de burguesía, mundo obrero.
Es la hora de la noche, a la huelga, a la huelga, a la
huelga. Sentadito en su tejado, vous comprenez un peu l'espagnol. Oui, voilà. Mara miau, 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 miau. Sentadito en su tejado, ha tenido la noticia que si quiere ser casado, mara miau, 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 miau. El gato le dice.
Pásame a la pastelera y acá de mí, correo, correo, miñán, que ya me va curando.
Yo canto por los caminos y cuando estoy en prisión oigo las voces del pueblo.
Última amara, cruje en ti mi ansiedad última. Y aquel árbol se queja como enfermos las hojas.
Et puis il y a l'actualité avec les réfugiés, les migrants, qui sont traités de la même façon que les Espagnols dans les camps en 39. Hein. Ça remue. C'est pas possible de, que l'histoire se reproduise comme ça. Et puis toujours avec les mêmes arguments. Ils vont nous envahir, ils vont manger notre pain.
Je retrouve toujours le même le pouvoir, l'humain. L'exploitation de l'humain, le non-respect de l'humain, l'actualité.
Abeja blanca, ausente.
Elle ouvre de chaque Français.
Globalement, bah, l'arrivée des migrants suscite, on va dire, surprise, une certaine méfiance de la part des populations, mais aussi l'action de élan de solidarité, la destruction de ce qui restait donc du camp, des tentes notamment.
Une politique européenne de dissuasion envers les migrants, c'est aussi ce que dénonce Amnesty International, mais pas seulement. Dans un rapport publié aujourd'hui, l'ONG note que la moitié des personnes déplacées dans le monde est accueillie dans 10 pays seulement, 10 pays qui pèsent moins de 2,5% du PIB mondial.
Moi je plains, c'est ce qui vient d'eux, qui sont à Calais. Ils font un mur, vous avez entendu hier, des kilomètres de mur. Je l'écoutais. Parce que j'écoute quand même les informations, moi, toujours. Hein. Bon, moi ces pauvres gens, le racisme existe encore, et ça, je peux vous l'affirmer. Quand ils s'en vont de la maison, des réfugiés, moi, je me vois encore.
Afghanistan, Pakistan, Tunisien, Marocain, Algérien, Libyen, Sénégal, Nigérien, Somalie, Saoudien.
Ah, la huelga, compañero, no vayas a trabajar. Deja quieta la herramienta, es la hora de luchar. A la huelga, madre, yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000. Yo por ellos, madre, y yo.
Huevos y presión, la reputación, lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe.
Vous venez d'entendre une troisième traversée de course à pied. Dernier numéro de la revue Jeff Clack, avec par ordre d'apparition.
Édito se sauver, par le collectif Jeff Clack.
Course à poil, un texte de Mathilde Forger. course avec la montre, une pièce sonore de Céline de la Savia, des extraits de Copos de Memoria,
souvenirs d'exilés de la guerre d'Espagne,
et Baya Caminos, une pièce sonore d'Émilie Mousset. L'émission est podcastable sur le site ondescourtes.fr.